Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Comme d'habitude, nous avons le plaisir pour parler du sujet du jour avec notre historien préféré, Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors, les trois derniers épisodes, on s'était intéressé à l'histoire des moutons en Australie et l'impact qu'ils ont eu sur l'histoire de ce pays. On va rester sur un thème lié aux animaux, une autre espèce importée en Australie qui a aussi largement contribué à l'histoire de ce pays. Cette fois, il s'agit des dromadaires, puisque, eh bien, comme les moutons à l'origine, il n'y en a aucun en Australie. Et pourtant, au moment où je vous parle, eh bien, l'Australie est le pays qui, dans le monde, abrite la plus large population de camélidés au monde, d'après les estimations récentes, il serait autour de 1 million de dromadaires en Australie, ce qui est évidemment colossal pour un pays qui, théoriquement, n'en avait aucun. Alors, pour savoir quand les premiers sont arrivés ici, il faut revenir au début du 19e siècle, tout simplement parce que eh bien, ce sont des animaux évidemment qui sont déjà connus, que ce soit ceux qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Et qu'étant donné le climat et la géographie de l'Australie, on considère assez vite qu'ils sont sûrement le parfait compagnon pour explorer l'intérieur aride du pays. Et d'ailleurs, le tout premier dromadaire à avoir foulé le sol australien est resté dans l'histoire. On lui a même donné un prénom. Il s'appelle Harry. Et Harry, il est arrivé à Port Adelaide en 1840. Et son histoire, en tout cas plutôt celle de celui qui l'a chevauché pendant quelques semaines, eh bien, elle est arrivée jusqu'à nous. Et pour ce qui est de l'explorateur qui est parti en compagnie de Harry à la découverte de l'intérieur de l'Australie, eh bien, il est resté dans l'histoire, mais peut-être pas pour les raisons qu'il espérait au moment d'entamer son expédition.
Oui, alors avant de vous parler de John Horrocks, parce que c'est son nom, la personne qui montait Harry, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que font les chameaux en Australie? Alors, je vais reprendre un peu le fil de l'histoire. Hein. 1788, la première flotte arrive dans ce qui est maintenant la Nouvelle-Galles du Sud, puis d'autres colonies sont établies, qui sont aujourd'hui des États. Et là, vous avez mentionné Port Adelaide, qui est juste un tout petit peu au nord de la ville d'Adélaïde, qui en fait maintenant partie dans sa zone périurbaine. Et donc, les Australiens sont à la recherche d'animaux qui peuvent les aider à coloniser. Et les chevaux sont plutôt délicats, ce qui fait que quand vous vous trouvez dans des endroits très très chauds où il y a finalement peu d'eau, vos chances de succès sont assez maigres. De même que les bœufs, puis par ailleurs, il faut les nourrir. Donc tout ça est un peu compliqué. Les chameaux et les dromadaires sont bien connus. Les Espagnols en exportaient dans leur empire justement pour continuer à coloniser là où la colonisation était difficile. L'Empire britannique les connaissait bien également. Hein. On sait que les Britanniques ont essayé de conquérir l'Afghanistan et puis ils en utilisaient aussi dans leurs colonies en Inde, enfin dans le Raj à l'époque. Et donc, cet environnement fait que dès cette époque-là, les chameaux et les dromadaires sont bien connus comme des bêtes qui sont puissantes, qui peuvent tenir de longues distances, qui peuvent porter de très lourdes charges hein, comparées à des chevaux, et puis surtout qui ont besoin de très peu d'eau. Et quand vous trouvez sur le continent le plus sec du monde, l'Australie, eh bien, ça peut forcément vous arranger.
Alors, je
Alors,
me permets,
effectivement, pardon? Oui?
pardonnez-moi, je vous interromps une seconde parce que on me l'a fait remarquer il y a peu et on me l'a appris il y a peu. En fait, l'Australie n'est pas le continent le plus aride du monde, c'est l'Antarctique. Voilà, parenthèse fermée.
Ah, oui, alors voilà, si on joue, effectivement, il y a beaucoup d'eau, mais elle est gelée. Alors, donc, sur cette fin de parenthèse, on reprend l'histoire de Harry qui vient des Canaries. Et encore une fois, les Canaries ne sont pas l'habitat naturel des dromadaires, mais enfin, il se trouve que les Espagnols en avaient fait venir beaucoup, justement pour les exporter dans le reste de leur empire. Et donc, John Horrocks, qui est un explorateur en Australie du Sud, Australie méridionale, qui avait ouvert déjà certains chemins vers, par exemple, la Clare Valley, où on fait très bon vin en ce moment en Australie méridionale, on s'éloigne un peu. Cet explorateur, donc, décide de monter vers le nord de l'État, enfin de la colonie à l'époque, pour voir s'il y avait d'autres terres arables qui pouvaient être utilisées soit pour faire pousser du blé, par exemple, soit pour de l'élevage extensif de bêtes. Et donc, il part avec son chameau. Et puis, bon, il essaye de se nourrir comme il peut dans ses expéditions. Et puis, à un moment donné, où il voulait tirer sur un oiseau en rechargeant, son chameau a mis pied à terre. Et vous savez, quand les chameaux se plient, c'est un énorme mouvement. C'est très impressionnant. Et surtout quand on est dessus. Et en fait, il s'est tiré dessus. Enfin, la charge est partie sur lui. Elle lui a arraché la moitié de la mâchoire, un doigt également. Enfin, il est mort dans d'horribles souffrances. Il n'a pas pardonné au chameau hein, parce que, il a demandé à ce qu'il soit abattu, ce qui a été fait. Donc, le premier chameau qui arrive en Australie en 1840, en 46, donc, part dans cette expédition avec John Harrocks et ça finit mal pour celui qui le monte et puis pour le chameau. Donc, il faut attendre quelques années avant que les chameaux reviennent. En fait, en 1859, j'ai cherché, il n'y en a que 7 dans toute l'Australie. En revanche, ça s'accélère. À partir des années 1860, on compte à peu près 3 000 dromadaires importés en Australie. Donc, en une vingtaine d'années, on passe de 0 à 3 000 parce que, justement, c'est un animal extrêmement utile.
Ouais. Alors, on va y venir tout de suite. Je voulais juste terminer sur ce Horrocks qui est resté connu dans la postérité pour sa fin tragique et un peu abusivement, il est aussi connu sous le surnom l'homme qui s'est fait tirer dessus par son chameau, même si on l'a bien compris qu'il s'est tiré dessus tout seul, mais suite au mouvement de ce fameux Harry. Alors, vous le dites effectivement, cette première expérience se passe moyennement, et puis, mais ça ne décourage pas malgré tout les colons d'employer davantage de chameaux pour continuer à découvrir le continent. Et à partir de 1860, comme vous le disiez, à ce niveau-là, les choses s'accélèrent pas mal. L'autre nouveauté par rapport aux premières importations de dromadaires, c'est que on se rend compte sans doute que c'est un animal un peu particulier qui peut être effectivement très pratique dans un contexte où d'autres animaux auraient beaucoup plus de mal à survivre ou à rester en tout cas en bonne santé, mais que eh bien il faut des gens qui soient des experts, en l'occurrence des chameliers, et donc on commence à faire venir avec ces animaux également des hommes qui savent parfaitement comment les entretenir et Empire britannique oblige. En l'occurrence, ce sont des chameliers qu'on appelle des chameliers afghans, même si ces hommes ne viennent pas spécifiquement forcément d'Afghanistan.
Oui, tout à fait. Alors, on les appelle les Afghans parce qu'à l'époque, c'est un territoire connu et en cours de colonisation. Mais en réalité, vous avez des Afghans comme vous avez des Pachtounes, comme vous avez des personnes qui viennent de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, mais qui à l'époque le Raj, donc des Indiens également. Souvent, alors vous avez quelques Sikhs, mais de manière générale, ils sont musulmans. Effectivement, on les importe, ces chameaux, enfin ces dromadaires, avec leurs chameliers. Alors les chameliers, en revanche, ils ont un contrat généralement de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils viennent en Australie et puis ils repartent. On les importe parce que, enfin, je sais pas, moi, vous imaginez aujourd'hui, si vous n'êtes pas cavalier, aller acheter un cheval et essayer de monter ça tout seul, sans expertise, sans expérience, c'est très compliqué. Ça l'est d'autant plus sur un animal qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant, comme le dromadaire. Et puis par ailleurs, vous avez une expérience qui est quand même pluriséculaire. Enfin, les caravaniers, la route de la soie, toutes ces choses-là ont des centaines et des centaines d'années. Donc, autant faire appel à des professionnels, entre guillemets, qui puissent vous aider non seulement à contrôler le dromadaire, à les monter, mais également à les reproduire. Parce que l'intérêt, c'est de développer le plus tôt possible une population locale. Parce que importer des animaux qui sont aussi importants, c'est très compliqué. C'est une logistique importante, non seulement pour les bateaux, mais aussi pour la nourriture. Donc, vous savez que l'espace coûte très cher encore aujourd'hui dans le fret. Quand vous avez une grosse bête et qu'il faut en plus des bottes de foin, enfin de nourriture pour les nourrir, c'est très cher, c'est très compliqué. Donc l'avantage d'avoir aussi des chameliers, ce sont des gens qui savent comment faire reproduire les dromadaires, parce que c'est une gestation assez longue, et s'en occuper, et puis produire cette population sur place. Donc ça arrive très tôt, hein. Pareil dans les années 1860, vous avez de plus en plus d'Afghans, entre guillemets, on a compris que c'était une population plus diverse, qui vient en Australie pour justement transmettre ce savoir-faire et augmenter l'utilisation des dromadaires dans le pays.
Alors, vous le disiez également tout à l'heure, hein, que au fur et à mesure, on amène et puis on finit par faire se reproduire des dromadaires. Il y en a de plus en plus en Australie. Et alors qu'au début, ils étaient limités, si j'ose dire, à des fins d'exploration, petit à petit, on s'en sert également comme un véritable moyen de transport. Ils vont servir à acheminer tout un tas de marchandises et pendant, pour le coup, plusieurs décennies, justement vers ces villes de l'intérieur du pays qui sont assez reculées, souvent très isolées. Et en l'absence, évidemment, de route ou etc. Enfin, c'est le moyen de transport privilégié pour amener des marchandises vers ces villes de l'intérieur.
Complètement. Et je pense qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à se représenter ça parce que avion, parce que voiture, parce que train, ou parce que dans notre imaginaire collectif, on pense aux chevaux ou aux bœufs. Mais en réalité, pendant des décennies, la figure principale de l'outback pour le transport, c'est le dromadaire. Et ça a vraiment marqué à la fois l'histoire et les esprits. Mais si vous voulez, quand au tout début de la colonisation australienne, le but, vous avez déjà une carte hein, de la côte australienne qui a été établie. Je crois que la première a été terminée réellement, c'est en 1808-1809, par un Français de mémoire via les informations volées à Flinders. Je crois que ce Français s'appelle Freycinet, le premier à la publier. Donc on connaît un peu les côtes de l'Australie, mais personne ne l'a encore vraiment traversée, ni d'est en ouest, ni du nord au sud. Et pendant plusieurs décennies, l'objectif est d'organiser des expéditions qui découvrent cet intérieur australien pour justement faire progresser la colonisation et pour découvrir de nouvelles terres potentiellement cultivables. Donc c'est un enjeu majeur. Ces expéditions qui sont initialement amorcées à dos de cheval, souvent se soldent par des échecs parce que ben, les chevaux ne tiennent pas ou parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Un cheval a besoin de boire des quantités d'eau assez importantes. Un dromadaire, par exemple, pourrait, je crois qu'il y a un record qui a été établi d'à peu près 1 000 km sans boire. Faire 400, 500, 600 km sans boire, c'est pas vraiment un problème. Pour un cheval, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez, tout ceci se fait dans un premier temps. Et une fois que cette colonisation a eu lieu, il faut bien pouvoir desservir ces endroits de production. Parce que le but d'avancer à l'intérieur, ce n'est pas juste pour explorer, c'est pour qu'il y ait des settlements, des endroits qui vont être colonisés, où la population locale va produire peut-être de la laine, peut-être de la viande, peut-être chercher de l'or. Et donc, vous avez besoin d'un moyen de transport. Et ce moyen de transport, c'est les caravanes. Et vous avez tout plein de petites bourgades qui, à l'époque, étaient très importantes et qui, aujourd'hui, sont complètement oubliées, dans le centre de l'Australie, qui ne pouvaient survivre, hein, très littéralement survivre en termes de nourriture, d'eau, etc., que grâce aux caravanes qui, par ailleurs, pouvaient ramener ce qui avait été produit sur place. Donc, toute cette industrie-là est assez importante. Et vous avez des gens qui font fortune sur le dos des dromadaires, hein, très littéralement, et puis, comment dirais-je, établissent des établissements de caravaniers qui sont des établissements en fait de transport. Et pendant assez longtemps, même quand les voies ferrées sont établies, on pourra peut-être en reparler, il y a des arrêts qui ne sont pas nécessairement desservis ou alors qui ne poussent pas jusque là où on veut aller. Par exemple, d'Oudnadatta à Alice Springs, tout la fin du trajet se fait à dos de chameau. Donc c'est extrêmement important, on l'a complètement oublié, mais vous pouvez le remarquer parfois quand vous visitez des musées, vous avez des photos, où vous voyez un dromadaire en plein milieu de l'outback australien, ce qui paraît peut-être intéressant, mais en fait, non, non, à l'époque, c'était primordial.
Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier épisode consacré à l'histoire des chameaux en Australie. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie, dans laquelle on va notamment expliquer que grâce aux chameaux, on a pu construire des infrastructures majeures en Australie, notamment des voies de chemin de fer. On s'intéressera également à ceux qui s'occupaient de ces chameaux, ces fameux chameliers afghans, pour voir comment ces hommes, qui n'étaient pour la plupart ni chrétiens et surtout ni blancs, ont été traités par la population locale, entre guillemets, et l'héritage qu'ils ont pu laisser derrière eux. Voilà, on se retrouve à très bientôt. Passez une très bonne journée et on se retrouve dans quelques jours pour la suite.